Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors jusque-là, c'était formidable. Hein, moi, je trouve que, le début du culte m'a mis sur une rampe de lancement, là. Donc, je vais vous parler de quelque chose. Alors, souvent, on est interpellés les uns les autres quand on lit la parole. Et on ne sait pas toujours jusqu'où le Seigneur va nous emmener. D'abord, on croit que c'est une parole pour nous. Après, on voit que ça sert à un autre objectif. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, si on met la première diapo. Non, c'est là-bas. Voilà. J'ai trouvé donc dans la Bible, et vous pouvez le trouver aussi, « Soyez des hommes ». Et donc, peut-être mes sœurs, vous allez dire, mais bon, qu'est-ce que je vais en tirer ce matin? Mais vous allez en tirer quelque chose. Et je suis sûr que la parole s'adresse à chacun, et elle est pour chacun. Donc, si votre mari est à côté de vous, laissez-le tranquille, ce n'est pas la peine de lui donner un petit coup de coude en disant, mais oh, ça c'est pour toi. Et parce qu'en fait, ça doit nous interpeller au plus profond de nous-mêmes. Et soyez des hommes, c'est écrit plusieurs fois dans la Bible, dans différents chapitres. Et en fait, c'est un encouragement, même un appel profond au courage, à la bravoure. Et donc, ce passage se trouve donc dans 1 Corinthiens 16 et verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ce sont des expressions viriles, on peut dire, et Paul s'adressait à ses frères et à ses sœurs, souvent de façon très très directive, mais vous verrez que ce n'est pas qu'une direction qui pourrait être dans l'autoritarisme. La parole vivante traduit ce verset par « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, montrez-vous viril, faites preuve de courage et d'énergie, croissez en force. » Et soyez des hommes, c'est vraiment l'inverse de « Courage, fuyons ». C'était un film je ne sais pas dans quelle année, en tout cas, pour des gens qui ont un petit peu de kilomètres au compteur, vous l'avez peut-être vu. Donc, ce n'est pas courage, fuyons. Et dans notre vie, il faut bien admettre qu'il y a des moments où on a envie de dire, je n'ai pas envie d'y aller, quoi. Et à chaque fois qu'il y a ce passage-là, soyez des hommes, un appel au courage, c'est parce que dans notre cœur, on n'est pas prêt. En tout cas, on pense que c'est trop grand pour nous et on a besoin des forces du Seigneur, que vraiment la parole de Dieu retentisse dans notre cœur pour nous dire « vas-y ». Alors la partie pratique que j'ai pu vérifier, c'est que ce verset, je l'ai reçu il y a 15 jours. Je pensais qu'il était pour m'encourager. Donc après, Robert m'appelle en me demandant si je voulais le représenter à une réunion du forum pastoral sur Rennes. Bon, j'ai dit oui, puisque donc ils étaient absents. Et donc moi, j'avais rien sur mon agenda donc ce jour-là. Et puis bon, puis après, il me dit, oui, mais ceux qui accueillent apportent aussi un message d'encouragement, une exhortation. Alors, il faut toujours lire dans un contrat les petites lignes, il faut aller jusqu'au bout. Et je me suis dit. Alors, d'un côté, j'entendais Robert, et de l'autre côté, dans mon oreille, le Saint-Esprit me disait, qu'est-ce que je t'ai donné? Et je savais ce que je devais leur dire. Et ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on peut avoir quelques fois, parce qu'en fait, je voyais, ah oui, il y a des frères là, ils sont pasteurs depuis longtemps. La Bible, ils la connaissent toutes. C'est, qu'est-ce que je vais leur dire? Bon, ben voilà. Et donc, je les ai encouragés avec ce passage. Et j'espère que je vais venir à votre rencontre, vous encourager avec ce passage. Alors, ce passage, il est entouré de d'autres choses. Mince, bizarre. Donc, de 1 Corinthiens 15, donc la fin. Mais tout le chapitre, vous pourrez lire tout le chapitre. Hein, parce que, vraiment, c'est merveilleux. Et tout ce que ça peut susciter en nous comme encouragement aussi. Donc, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le verset 58 qui nous prépare déjà à ce que Paul va dire un peu plus loin. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, inébranlable. Mais c'est vraiment, ça ne bouge pas. Hein. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et donc, on va continuer sur 1 Corinthiens 16, donc du verset 1 au verset 14. Donc Paul, là, parle de choses différentes. Pour la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour porter vos dons à Jérusalem. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous me fassiez conduire là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte, toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Faites-le reconduire en paix, afin qu'il veille, qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Et donc, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que parmi vous, tout se fasse avec amour. Et donc, vous voyez dans ces deux passages qui nous est parlé de choses assez différentes, mais pour moi qui viennent étayer ce passage de « Ayez courage, soyez des hommes ». Et donc le « Soyez courageux » qui nous est adressé, c'est pour aller au-delà, bien au-delà de ce que peut-être nos craintes viennent nous bloquer. Et l'encouragement qui vient de courage, donc, et d'un caractère qui est changé. Ça vient aussi de décision, d'énergie, de fermeté, de résolution, de volonté. Et dans la définition, parce que les mots ont de l'importance et ils peuvent vous aider à cerner mieux la pensée de Paul. Il y a deux... deux expressions, on va dire, ou deux définitions. La première, c'est une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés, l'énergie dans l'action, dans une entreprise. Et ça s'oppose à la paresse et au laisser-aller. Et la deuxième, qui peut être assez proche tout de même, le fait de ne pas avoir peur. Force devant le danger ou la souffrance s'oppose à la lâcheté et à la peur. Car vous savez ce qui est dit des lâches. Oui, dans l'Apocalypse 21, donc au verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Et tout l'Évangile, toute la parole de Dieu, ce sont des paroles pour nous encourager à tenir ferme malgré les difficultés, malgré ce que chacun d'entre nous, nous pouvons traverser à notre mesure, à notre niveau. Et c'est sûr que Paul, on a l'impression qu'il dirige une compagnie militaire, et parce que ça semble très, très carré comme ça. Mais vous avez entendu que tout se fasse dans l'amour. Et le courage vient aussi du cœur, du mot cœur. Et le cœur, c'est un endroit où le Seigneur travaille, n'est-ce pas ? Amen ! Amen. S'il y a un endroit où il travaille, c'est bien le cœur, non ? Et où il change nos cœurs. Et donc, dans le cœur, il met des convictions. Et sur ces convictions profondes qu'il met dans notre cœur, on peut se mettre en marche. C'est la force que Dieu nous donne. Et le courage n'est pas simplement une question de force physique, une question même d'orgueil. On peut voir du courage pour différentes motivations. Mais là, Paul vient réveiller le courage chez les hommes. Et ce qui a peut-être perdu de valeur, et je le sais, pour différentes raisons, c'est vrai qu'Adam, dès la première confrontation difficile, a fait preuve de lâcheté. Et malheureusement, je ne veux pas dire que c'est la seule traduction, soyez des hommes, mais qu'il y a aussi soyez courageux, mais les hommes ont besoin de courage. Parce que la mission est difficile. Nos sœurs aussi, mais je dois avouer que bien souvent, je vois des femmes qui ont du courage, mais vraiment du courage, quand elles s'occupent d'une famille à elles toutes seules, que le mari soit là ou qu'il ne soit pas là. Et nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas appelés à la lâcheté et à courage, fuyons. Et donc Dieu a donné des qualités naturelles aux hommes, et notamment la mission de garder, de protéger sa famille, mais tout ce que Dieu met entre ses mains. Et donc c'est aussi dans garder, c'est aussi pourvoir aux besoins, c'est-à-dire à ce qui va faire les choses essentielles d'une famille. C'est-à-dire que son épouse, ses enfants, aient l'assurance d'être protégés, qu'il y a là un homme qui ne va pas se dérober. Et dans le temps, on disait chef de famille, que l'homme était chef de famille. C'est complètement ringard maintenant. On n'entend plus ça. Mais pourtant, la Bible nous parle quand même que les hommes doivent assumer leurs responsabilités d'être des repères pour leurs enfants, pour leur famille, des repères dans l'Église, des repères dans leur pays, dans le travail qu'ils font. Et un frère, ça fait très très longtemps, me disait que dans repère, il y a père. vraiment de reprendre cette fonction, cette mission que nous devons aux nôtres pour garder le cap. Et physiquement, bien sûr, nous sommes d'une constitution différente, physiquement plus fort, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est dans notre cœur. Et donc pour reprendre les deux textes que nous avons vus, donc 1 Corinthiens 15 et donc 2 Corinthiens 16, ce que j'ai vu, c'est que Paul dirige en premier nos regards vers le ciel. C'est-à-dire que cette conviction, ce n'est pas des convictions transmises par des hommes. C'est une conviction reçue par le Saint-Esprit, une grâce qui nous est donnée de mettre notre main dans la sienne pour marcher, pour là avoir la force. Et donc 1 Corinthiens 15, là, nous parle de notre destinée, la résurrection en Christ, le triomphe final de Christ et de son Église. Et donc, là, bien sûr, à travers toutes ces choses, il nous a parlé de la victoire de Christ à la croix, de la victoire définitive et finale pour l'Église. Et pour l'expliquer un petit peu mieux que je vous l'explique, j'ai trouvé un commentaire donc, de ce verset 58 qui nous dit « Ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Donc la pressante exhortation par laquelle Paul termine ce riche chapitre prouve puissamment le rapport intime qu'il y a entre la doctrine de la résurrection et la vie chrétienne tout entière. L'œuvre du Seigneur, c'est la propagation et l'accroissement de son règne en dehors et au-dedans. Sans la vivante espérance de la résurrection, cette œuvre n'aurait ni terme ni triomphe à attendre. Jamais la puissance du péché, de la chair, de la mort ne serait entièrement vaincue et détruite. Où donc serait notre courage ? C'est par la résurrection que nous triomphons, même en succombant, ainsi que notre maître qui, en mourant, a vaincu la mort. Et C.S. Lewis disait à propos de voir le ciel dans notre vie, d'en avoir, d'avoir les yeux fixés sur ce que nous allons devenir, sur ce que nous sommes déjà en Christ. Si on étudie l'histoire, on s'aperçoit que les chrétiens qui ont accompli le plus pour le monde présent, sont ceux qui se sont préoccupés le plus du monde futur. Depuis qu'un grand nombre de chrétiens ont cessé de penser à l'autre monde, ils ont perdu une grande part de leur efficacité dans le monde actuel. Vous comprenez pourquoi ce chapitre est avant, cette exhortation à tenir ferme, inébranlable, à être des hommes. Et Colossiens 3 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Amen. Et donc dans le chapitre 16, cette exhortation dans le courage, la virilité, il y a que parmi vous, tout se fasse avec amour. Donc c'est une autre caractéristique indispensable au courage et à la manifestation de ce courage. Et nous savons que à travers tout ce livre de 1 Corinthiens 15, de 1 Corinthiens, pardon, donc du premier au dernier chapitre, on voit la vie de Paul avec cette église qu'il a suscitée. Et il y a des choses qui sont vraiment pas faciles, et des choses beaucoup plus agréables comme 1 Corinthiens 13. Et donc, Paul n'était pas forcément très à l'aise avec les Corinthiens, mais il ne s'est pas dérobé par rapport à ce qu'il devait leur apporter. Donc, il a dû faire des mises au point très courageuses et fermes à l'église de Corinthe au sujet des discordes et de l'immoralité, alors que déjà il était remis en cause. Ça, c'est particulièrement difficile. Et au-delà de ces enseignements, Paul donne un exemple de courage, car il reprend dans la vérité et l'amour tout ce qu'il a fait. Vous pouvez le lire plusieurs fois. Je pense que chacun pouvait lire les choses avec une conscience éveillée et connaître ce qui était vrai et savoir que Paul ne parlait pas avec autoritarisme, mais pour le salut de chacun, parce qu'il en était question. Et donc, il y a à la fois donc 1 Corinthiens 5, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Et donc après, il y a vraiment dans 1 Corinthiens 13, toute la grâce qui est donnée à travers la parole de Dieu, à travers l'Esprit Saint qui nous encourage à parler. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout se passe dans un équilibre qui est entre l'annonce de la vérité et cette enveloppe d'amour que Dieu nous donne. Et alors, on voit aussi dans 1 Corinthiens 16 comment Paul parle de différentes choses qui sont très pratiques, quoi. Mais moi, j'y vois le caractère de Paul qui est auprès de ses frères et qui parle de choses vraiment simples, mais avec un grand amour pour eux. Et donc, il parle de la collecte d'argent. C'est pratique. C'est carré, c'est organisé. Peut-être qu'ils en avaient besoin de ce type de repère. Il parle de Timothée qui a besoin d'être encouragé, d'être bien accueilli. Il parle aussi du choix d'Apollos, qui pour l'instant n'était pas d'accord de venir à Corinthe. Sans doute qu'ils ont dû discuter un bon moment, et puis, mais si, je te dis d'y aller, c'est le moment, etc. Et puis Apollos dit, mais non, c'est pas le choix ou j'ai autre chose. Mais Paul, il respecte le choix d'Apollos. Et il nous décrit un petit peu plus loin la famille de Stéphanas, un exemple pour l'Église. Et donc je ressens que quand Paul, à travers cette lettre, parle, il parle à des frères avec un encouragement. Oui, c'est peut-être carré, c'est peut-être organisé, mais l'amour y est. Et vous savez, à travers toute la vie de Paul, que vraiment c'est un cœur qui a été retourné. C'est un cœur qui a été retourné. Et c'est pour ça que notre cœur a besoin de courage, mais d'un cœur retourné par Dieu, rempli de son amour, pour exercer ce que nous avons à faire. Et vous vous rappelez sûrement, mes frères, l'une des missions, pour dire la plus haute, qui nous est donnée, d'aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. L'homme a cette charge, a cette mission d'apporter l'amour ce repère d'amour dans son foyer. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Quelle mission ! Souvent, je me suis senti découragé devant, parce que je vois Jésus et puis je vois la différence de niveau. Mais bon, je dis, Seigneur, c'est toi qui l'as dit et c'est toi qui le fais. Ce que Dieu ordonne, il nous le donne. Ce ne sont pas des paroles vaines qu'il nous donnerait pour distraire, occuper nos oreilles. Ce sont des paroles de vérité. Et vous connaissez aussi ce passage, l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Et l'auteur de cet amour, vous savez qui c'est ? C'est Dieu, c'est notre Père. Cet amour est parfait. L'amour dont il nous équipe, c'est un amour parfait. L'amour divin est parfait. Donc lorsqu'il vient dans notre cœur, nous disons oui et amen. Nous en avons besoin d'être retournés et de ne pas avoir une virilité qui serait malvenue, une brutalité qui serait pas digne d'un enfant de Dieu. Donc il y a les deux. Il y a vraiment cet appel qui semble viril. Et la deuxième partie, c'est que c'est vraiment avec une main d'amour. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on retrouvait cette expression « sois un homme, soyez des hommes » à différentes reprises. Donc dans 1 Roi 2, David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant « Moi je m'en vais, où va tout ce qui est terrestre. Sois fort, sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Et c'est vrai qu'on peut entendre que la vie chrétienne, c'est pour les faibles. Vous n'avez pas entendu ça ? Moi, je l'ai entendu. Ah oui, tu as trouvé ça parce que tu étais au fond du trou. Merci Seigneur d'avoir été au fond du trou. Merci Seigneur. Et je veux bien recommencer l'expérience, parce que c'est celle qui m'a sauvé. Mais le christianisme n'est pas faiblesse. Au contraire, il est vraiment une force qui échappe à la sagesse humaine. Et ça, on le trouve par la grâce de Dieu qui illumine les paroles dans cette parole qui est la Bible, cette parole vivante. Et le Seigneur veut que nous soyons forts et fermes dans la vérité et l'amour, sans rien lâcher de ce qu'il nous a donné. Il n'est pas prévu de système de marche arrière, de toute façon. C'est en avant. Ne reculons jamais de ce qui a été mis dans notre cœur, de cette grâce que nous avons chantée, que cette grâce qui a retourné notre vision et changé nos mentalités. 2 Timothée 1,7, vous connaissez ce passage, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia, Seigneur. Quand je suis faible, toi tu es fort. Car ce n'est pas un esprit de timidité, nous dit la parole vivante, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant, qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain, une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Amen. Amen, Seigneur. Et quand le Seigneur a écrit quelque chose, quand ses serviteurs ont été inspirés par lui pour écrire des choses comme ça, vous pouvez tenir ferme dessus. Voilà ce que Dieu dit. Et un autre exemple où le Seigneur vient encourager quelqu'un dans la faiblesse. Vaillant héros pour Gédéon. Donc dans Juges 6, vous pouvez lire toute l'histoire parce que c'est vraiment glorieux. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Amen. Quand vous êtes sûr des paroles que Dieu a mises dans votre cœur, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Donc, c'est plus la peine de contester avec Dieu. Et dans Ésaïe 46, 8, souvenez-vous de cela et soyez des hommes. Rebelles, prenez la chose à cœur. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, rien n'est semblable à moi. Le vaillant héros n'est jamais sans Dieu. Le vaillant héros, l'homme courageux, ne le fait pas avec orgueil, voire avec folie. Cet orgueil, nous savons qu'il a été détruit à la croix, mais que dans notre chair, il en reste. Mais ce n'est pas cette motivation-là sur laquelle je veux vous entraîner. C'est à entendre les paroles que Dieu met dans votre cœur, aujourd'hui ou à d'autres moments. Et lorsque les forces vous manquent, te dire, mais Seigneur, c'est toi qui parles. Alors je peux y aller. Je n'ai pas envie de le faire. Je ne sais pas comment je vais y aller. Mais Seigneur, tu m'as parlé, je vais y aller. C'est bon pour vous aussi, mes sœurs, hein, ce n'est pas que pour les hommes. Alors ne crains pas. Ne crains pas. Le Seigneur n'attend pas que tu sois inébranlable pour te mettre en marche. Parce que sans ça, tu n'aurais pas besoin de lui. Tu irais avec tes forces. Alors merci Seigneur, qui ne nous donne pas toutes les capacités, mais que nous puissions aller chercher auprès de lui les forces qui nous manquent, la loyauté, toutes les nobles qualités qu'il veut mettre dans notre cœur d'homme et de notre cœur de femme. Mais la clé, c'est ton obéissance. Et c'est notre obéissance qui va activer la puissance de Dieu, et pas autre chose. C'est dire oui, Seigneur, j'irai. Je sais que c'est toi qui m'appelles. Voilà. Nous savons que nous avons vécu, les uns et les autres, des confrontations, ou que nous devions les vivre et puis que nous avons fui. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Parce que c'est lui qui nous envoie. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle jusqu'au bout, au-delà de nos petites capacités. Il attend notre oui. Il attend notre obéissance. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes de parler à nos cœurs. Amen. Nous allons prier.